Alors, donc, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Il y a plusieurs nouvelles têtes ce soir, signe de promesse pour l'an prochain. Je réalisais que ce soir, c'est probablement la 25e réunion de notre groupe en biblique entre l'Oratoire du Louvre et Saint-Eustache. Troisième année donc. Je rappelle pour certains piliers qui sont là depuis les commencements, et il y en a un certain nombre parmi nous ce soir, nous avons commencé avec l'année Saint-Paul qui nous a donné l'occasion de relire, ou de lire, ou de découvrir quelques textes majeurs de l'apôtre Paul la première année, puis la deuxième année nous sommes partis sur Guerre et paix dans la Bible, là aussi ce qui nous a permis une lecture transversale des grands textes belliciste ou pacifique. Et puis cette année, nous avons commencé un parcours sur les cités bibliques. Nous avons commencé en tout début d'année à Babel, où l'on bâtissait une ville, pour aller ensuite à Jéricho, à Nazareth, à Capharnaüm, à Jérusalem, et même à la Jérusalem céleste. Et puis, nous avons gagné les rives de Ninive, cette ville sauvée ou bien détruite. Et ce soir, je dirais que c'est un peu le clou de la fête, la cerise sur le gâteau, car c'est à Athènes que nous allons nous poser. Athènes qui représente vraiment, au temps de l'écriture des Actes des Apôtres, qui représente une ville tout à fait mythique. Il faudrait s'imaginer New York, Londres ou Paris, dans les imaginaires de bien des pays d'aujourd'hui. Une ville mythique parce qu'une ville hautement intellectuelle, la ville des philosophes, la ville de la sagesse, qui, bien que gagnée par l'Empire romain dans cette première mondialisation romaine, reste la ville des artistes, des créateurs, des philosophes. Et c'est cette ville-là que nous allons parcourir ce soir, avec la même question que Paul. Où se cache Dieu dans la cité? Et il me semble, en parcourant les très multiples commentaires qui ont pu être faits sur ce texte que l'on doit donc à Saint-Luc, ce texte du livre des Actes des Apôtres, si l'on lit les différents commentaires, on se rend compte que c'est probablement un des textes majeurs de ce que l'on peut appeler l'inculturation, et c'est probablement l'un des textes les plus modernes également, qui correspond aux questions actuelles de foi et de culture, de science et foi, de confrontation entre la pensée, dans ce cas-là de plus noble parfois, ou de pire, et Dieu. Et au fond, en s'attachant à analyser la réaction de Paul et surtout la façon dont Luc nous le présente, en quelque sorte retournant le discours jusqu'à présenter Dieu créateur de toutes choses, Dieu unique, fondamental dans tout ce panthéon d'idolâtrie que représente Athènes, eh bien je crois qu'on va faire un voyage tout à fait merveilleux dans une ville qui ne manque pas d'attrait et qui pourtant a provoqué une certaine colère chez Paul et d'ailleurs n'a pas suscité un engouement formidable chez ses auditeurs. Alors, avant que nous n'en commencions le commentaire, je vais vous proposer une fois de plus d'en lire une version tout à fait moderne de la nouvelle traduction de la Bible qui va nous remettre un petit peu dans le bain et qui va nous donner cette envie de suivre Paul à travers Athènes.
Les frères ont alors décidé d'envoyer sans attendre Paul vers la côte. Silas et Timothée sont restés sur place. Ceux qui étaient chargés de Paul l'ont conduit jusqu'à Athènes. Ensuite, munis de la consigne pour Silas et Timothée de rejoindre Paul au plus vite, ils sont repartis. Paul les attendait à Athènes. Il était exaspéré par cette ville pleine d'idoles. Chaque jour, il avait des entretiens, dans la synagogue, avec les Juifs et les craignants Dieu, et sur la place publique, avec tous ceux qui croisaient son chemin. Il s'est aussi entretenu avec certains philosophes épicuriens et stoïciens. Comme Paul annonçait Jésus et le relèvement, les uns disaient « Mais que peut bien signifier ce bavardage ?» Et d'autres « Il est sans doute un prédicateur de divinités étrangères. » Ils l'ont emmené à l'Aréopage pour l'interroger. « Peux-tu nous faire connaître cette nouvelle doctrine que tu exposes ? Certains de tes propos sonnent peu familièrement à nos oreilles. Nous voulons donc apprendre de quoi ils retournent. » Il faut savoir que le passe-temps favori des Athéniens et des étrangers qui y résident est de colporter et d'écouter les nouveautés. Paul s'est levé au milieu de l'aéropage et a dit « Athéniens, quand je vous observe, je vous tiens pour des hommes très religieux. N'ai-je pas vu en passant, alors que j'examinais vos monuments sacrés, un autel portant cette inscription « Au Dieu que nous ne connaissons pas. Celui que vous vénérez dans l'ignorance, moi, je vous l'annonce. Le Dieu qui a fait l'univers et tout ce qu'il contient, le Dieu seul, seul le Dieu du ciel et de la terre, n'habite pas des temples construits par la main de l'homme. Celui qui donne à tous vie, souffle et tout ce qui est, n'est pas servi par la main de l'homme. Il ne saurait avoir besoin de quelque chose. D'un, il a fait surgir une multitude afin de peupler la surface de la terre. Et pour eux, il a fixé les limites des temps et des lieux afin que, cherchant Dieu, ils puissent d'aventure dans leur tâtonnement le trouver. Et pourtant, il n'est pas loin de chacun d'entre nous. En lui seul, nous vivons. Nous mouvons, existons. Nous sommes de sa descendance, ainsi que l'ont dit aussi certains de vos poètes. Alors, puisque nous appartenons à la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre, auxquels l'art et l'invention de l'homme auraient donné forme. Et si Dieu a fermé les yeux sur les temps d'ignorance, il ordonne maintenant aux hommes, quels qu'ils soient et où qu'ils soient, de transformer leurs pensées. Et cela parce qu'il a décidé d'un jour où, par un homme désigné par lui, il jugera le monde dans la justice. Ce qu'il a garanti pour tous en le relevant des morts. À ces mots de relèvement, les uns ironisaient. D'autres proposaient de remettre la discussion à plus tard. Paul a quitté leur cercle. Cependant, quelques hommes se sont attachés à ses pas et ont eu confiance. Parmi eux, on trouvait notamment Denis l'aéropagite et Damaris, une femme, et d'autres encore.
Donc merci pour cette belle lecture et puis bonsoir à chacun d'entre vous. Donc un grand merci aussi à Hervé, regardez comme il a tout bien préparé. Alors on voit que c'est la dernière fois, il veut laisser le meilleur des souvenirs possible. Voyez, on a des chaises de première classe, il y a des spots, c'est vraiment formidable. J'ai même vu des Kugloff pour la sortie, donc vraiment merci. Et merci pour ces 3 années, franchement, c'était vraiment une joie d'avoir ce temps ensemble. Alors c'est vrai que l'année prochaine, peut-être, on continuera avec Jérôme Prigent, le père Jérôme Prigent, mais il va être ordonné prêtre le 4 juin, donc c'est aussi vraiment une joie. Alors, si vous avez des idées de thèmes pour l'an prochain, n'hésitez pas à nous les souffler à l'oreille, peut-être que ça nous inspirera, mais enfin bon, on n'est jamais sûr que ça... Voilà. Alors, tu disais, Luc, c'est Luc qui a écrit ce texte des Actes, je crois que c'est intéressant parce que Luc... On dit que c'est le seul, finalement, des évangélistes à pas être de culture vraiment hébraïque, même si c'est pas non plus peut-être quelqu'un qui était quand même dans l'ignorance de la Bible hébraïque. Il semblerait quand même que ce soit un homme de culture grecque, donc il sait de quoi il parle. Paul lui-même aussi, Paul n'était pas, grec, mais il avait la double culture, finalement, aussi bien hébraïque que grecque, formée à ces deux écoles d'une manière très savante. Et donc, quand ici, il cite avec aisance des philosophes et des poètes grecs, il le fait, je veux dire, comme nous citons les fables de La Fontaine, si vous voulez. C'est quelque chose qui, pour lui, faisait partie de sa culture tout à fait profondément. Donc, oui, c'est un texte qui est important. Alors, je propose que, comme d'habitude, on suive verset par verset, parce que finalement, c'est ce qui permet peut-être d'aller le plus proche du texte et de voir aussi comment ça fonctionne. Voilà, alors le verset, ils arrivent à Athènes, et puis Paul, il visite un peu Athènes. Moi, j'allais dire que déjà, il visite et il discute avec les gens. Déjà, ça, c'est intéressant comme démarche, finalement. C'est-à-dire que, voilà, on peut passer à la surface des choses. Lui, il s'intéresse, il creuse, alors qu'il était là pour attendre, finalement. Donc, il a cette démarche de s'intéresser aux gens, s'intéresser à ce qu'ils font. Et finalement, il s'énerve, il s'irrite. Non pas tant de leur manque de foi, finalement, mais d'une trop grande spiritualité. Alors, ça, c'est quand même assez intéressant. Peut-être aussi, nos contemporains pourraient être, finalement, cet ordre-là. Si on parle de la foi ou de la spiritualité comme simplement de la religion, peut-être pas, parce qu'aujourd'hui, je crois que le français n'est pas tellement spirituel, mais... Bon, il peut s'agir finalement d'autres formes d'idoles ou de spiritualité. On le voit au verset 21 quand on dit voilà, que ils n'ont du temps que pour s'intéresser à l'information nouvelle. Ça, on veut dire, c'est quand même chose qui est extraordinairement moderne, voilà, d'aller courir après les dernières informations. Mais moi-même, c'est le feuilleton du jour. Ah ben, Ben Laden a été tué. Bon, alors voilà, mais... Dans 15 jours, on n'en parle pas parce que ça sera autre chose, ou alors ça sera la Syrie, ou je ne sais quoi. On ne sait pas ce qu'ils vont nous sortir. Et puis ensuite, on ne parle plus du reste, parce que de toute façon, ça ne nous intéresse plus, c'est déjà passé. Donc là, c'est une forme aussi de spiritualité. Alors Paul s'irrite, mais moi, là aussi, je trouve que c'est intéressant. Il s'irrite, il trouve ça un peu nul, mais plutôt que de leur taper dessus, eh bien, il a une démarche d'évangélisation. Et ça, une démarche de... se dire, voilà, on va leur proposer quelque chose qui va les permettre de cheminer, d'avancer. Donc là, je trouve que cette attitude est de s'approcher des gens, s'intéresser, voir ce qui... leur lieu d'adoration, finalement. Qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui, pour eux, est leur préoccupation ultime, diraient les philosophes, justement, peut-être. Et puis, se dire, peut-être qu'il y a quand même là un problème, si on détecte qu'il semblerait, à notre avis, qu'il y a un problème. Bon, on ne fait pas le bonheur des gens malgré eux, et on le voit bien dans ce texte, finalement. Mais il se dit, peut-être que là, il y a quand même quelque chose qui les bloque, quoi. Eh bien, il va avoir cette démarche d'ensemencer, finalement, une autre façon de concevoir le monde, à partir de Dieu, à partir de Jésus-Christ, tenant compte de leur culture, de leur façon de penser. Et ça, je trouve que c'est bien comme démarche. On retrouve, si vous voulez, peut-être un peu l'amour des ennemis que propose Jésus-Christ. Voilà, si ton ennemi, plutôt que de le tuer, tu peux l'aimer, c'est-à-dire essayer de le faire avancer, de le faire progresser. C'est pas forcément avoir de la sympathie, puisque là, il est plein d'irritation devant cette ville pleine d'idoles, ces gens qui sont sans arrêt à chercher la nouveauté. Bon, alors il n'a pas peut-être une admiration, une affection formidable, mais ça n'empêche, il a cette volonté de bien, de faire progresser par l'annonce. Voilà. Alors, c'est dans l'Épître aux Romains, je crois, c'est chapitre 12, non, il dit « faut surmonter le mal par le bien. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. » Donc finalement, c'est un peu ça, cette démarche positive, vraie, d'aller à la rencontre des gens et essayer de leur apporter le meilleur.
Oui, et lorsqu'on parlait de la modernité de ce texte, en effet, il semble bien qu'au 1er siècle, l'Empire romain ait accueilli tout un tas de religiosités nouvelles, notamment venues d'Orient, puisque vous savez que, avec cette mondialisation, les religions circulent. et quelle est la religion qui en profitera le plus, si ce n'est la religion chrétienne ? Paul en est un exemple. Lorsque l'on est à Athènes à ce moment-là, nous avons des épicuriens, nous avons des stoïciens et nous avons un certain nombre de sectes. Non pas au sens négatif que l'on donnerait aujourd'hui, mais au sens de rassemblement de quelques-uns autour d'une spiritualité un peu forte et une volonté de partage et de mise en commun. Eh bien, face aux sectes épicuriennes, philosophiques et autres, il y a la secte des chrétiens. Et sans arriver tout de suite à la fin, on remarquera que Denis l'Aréopagite ou Damaris sont les membres de cette première église. Et au fond, Paul n'aura cessé de créer des petits groupes comme ça, de ville en ville, et d'essaimer sur toute l'Europe, si j'ose dire, cette religion nouvelle. Et au lieu de s'opposer catégoriquement, comme il pourrait le faire, il utilise vraiment une théologie contextuelle, c'est-à-dire que, il le dit souvent, il se fait grec avec les grecs, il se fait juif avec les juifs, il se fait romain avec les romains, et à Athènes, il se fait clairement philosophe. Ce qui peut valoir un certain nombre de contresens. Ce texte est un texte avant tout chrétien et religieux. Or, certains philosophes ont voulu le voir comme d'une haute philosophie, j'allais dire monothéiste, spéculatif, sans voir qu'il y avait justement dans la démarche un saut formidable que l'on va pouvoir suivre en suivant la démarche de Paul. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'au fond, dans une vision missionnaire, dans une théologie du dialogue, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, je crois qu'il y a bien des leçons à tirer de l'exemple paulinien. Et lorsqu'effectivement on s'est tous mis à chercher les textes de Paul, on s'est rendu compte justement de la formidable actualité et de la formidable contemporanéité de tous ces textes. Et celui-là est tout à fait intéressant de ce point de vue-là. C'est pourquoi, là encore, pendant longtemps, on a parlé de l'échec de Paul à Athènes, mais je crois que ça n'est pas intéressant en cela. Ce n'est pas l'échec de Paul qui est intéressant, c'est de voir jusqu'à quelle mesure un dialogue est possible, quelles en sont ses limites, et au fond, Paul a parfaitement réussi, c'est-à-dire qu'il est bien arrivé avec le Christ et la résurrection au centre de son discours, et au fond, il est allé jusqu'au bout de sa démonstration. En revanche, ceux qui ont échoué, ce sont ses auditeurs qui n'ont pas su faire le saut, la conversion, la métanoïa que leur demandait Paul. Alors, je pense que c'est un texte qui peut nous intéresser tout un chacun, j'allais dire, dans notre vie, parce que justement, alors que nous nous posons des tas de questions existentielles, des tas de questions essentielles, il arrive un moment où justement la foi, ce Dieu auquel nous croyons, vient, j'allais dire, nous demander de faire ce saut. Et je crois qu'il faut l'admettre, même s'il faut reconnaître qu'il y a différentes façons d'arriver à lui, y compris par l'intelligence, la raison, le raisonnement, le dialogue, etc., etc., et par toutes les semences qui sont dans toutes les créations humaines. Mais à un moment, il y a cette folie de la croix à laquelle nous adhérons. Et ça, il faut le reconnaître aussi. Et voilà. Donc, j'allais dire, il ne faut pas tomber dans une indifférence intellectuelle et se dire que tout se vaut, que tout est dans tout et que tout aboutit, j'allais dire, tous les chemins mènent à Rome. Eh bien non, le Christ a quand même un positionnement, une histoire et une présence qui sont indépensables en regard de tous les autres accès au Dieu. Et je crois que de ce côté-là, c'est un texte qui peut nous faire tout à fait réfléchir.
Oui, merci. Donc, Paul, finalement, il va aller voir un peu les différentes sortes. On voit au verset 17, il va dans la synagogue avec les Juifs. Il y a aussi, donc, on dise parfois Pierre est l'apôtre pour les Juifs, parce que Jacques, qui était le chef de l'église de Jérusalem, l'église, enfin, qui était le chef de l'église, je dirais, en général même. Donc il a dit, voilà, Pierre et Paul, il y a un différent, donc Pierre va aller vers les Juifs et Paul vers les païens. Là, visiblement, il va quand même aussi vers les Juifs, c'est-à-dire que c'était plus peut-être une séparation entre le monde païen et le monde juif. Pierre peut-être resté donc dans Israël, à l'intérieur, et puis Paul est parti donc à l'extérieur, dans le monde, voilà, en dehors d'Israël. Merci. Mais quand même, il y avait des synagogues un peu partout, comme tu le disais, et souvent cette évangélisation partait donc des synagogues, car à l'époque, le christianisme n'était pas inventé. Paul n'était pas chrétien, il était juif, comme Jésus était juif, Marie et les 12 apôtres, bien sûr. Et donc, le christianisme, il va s'inventer progressivement et spécialement, je dirais bien après la mort de Paul, finalement. Là, c'est simplement donc une façon d'être juif, juif messianique, en fait, et une façon d'être juif, j'allais dire, libéral, c'est-à-dire que, bon, avec, on le voit, une pratique relativement souple. Mais visiblement, il y avait une pratique souple, car ce qu'on appelle les craignants Dieu, c'est donc le deuxième cercle auquel Paul s'adresse, c'était des gens qui fréquentaient la synagogue, s'intéressaient à la Bible hébraïque, à la connaissance, à la réflexion, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Moïse, mais ne pratiquaient pas particulièrement la kashrout, la circoncision, etc. Donc c'était des gens qui s'intéressaient sans avoir cette pratique finalement rigoriste de la loi. Dans un sens, c'était quand même peut-être les plus proches des chrétiens qui, eux aussi, ont commencé à ne plus pratiquer ces règlements très étroits pour rester dans une démarche plus purement spirituelle. Voilà. Alors, c'était le deuxième cercle. Et puis, le troisième cercle, c'est la place publique. Il allait s'entretenir avec les gens qu'il rencontrait chaque jour. Donc, on voit bien cette démarche de Paul que tu disais, qui se fait tout à tous. Bon, je pense que dans la synagogue, il partait pas en parlant de la philosophie grecque ou du dieu du cosmos. Il partait, comme on le voit faire ailleurs, eh bien, de textes bibliques, des choses comme ça. Et ça, je crois que c'est intéressant quand même. Parce que, si vous voulez, on voit ce dieu, hein, on va le voir plus tard dans le texte, dans le développement de Paul, ce dieu qui va à la rencontre de l'homme, finalement, et qui progressivement lui dévoile quelque chose, lui se révèle. Finalement, Paul fait un peu pareil, c'est-à-dire il se rend présent, mais il va rejoindre l'autre là où il est, finalement. Avec les Juifs, eh bien, il va partir de ce qui les intéresse, les motifs, ce qu'ils peuvent comprendre. Avec les craignants Dieu, il peut avoir peut-être aussi une autre façon de présenter les choses, un autre argumentaire, car leur besoin de déplacement, de changement de mentalité n'est peut-être pas tout à fait le même. Et puis avec les Grecs, les philosophes, les stoïciens, les épicuriens, s'ils nous citent peut-être ces différentes philosophies, c'est peut-être pour nous dire que avec l'un, avec l'autre, il aura peut-être une autre façon de parler, peut-être. Voilà. Alors, je ne connais pas extrêmement bien ce que pensaient particulièrement les épicuriens, les stoïciens. Il y avait quand même, c'était quand même pas des athées. Ils pensaient plutôt en un dieu, en tout cas pas un dieu personnel avec qui on discute, si vous voulez. Ça, je crois que c'est quand même, dans les religions du monde, c'est pas quelque chose qui est une évidence. Autant la foi, comme disent les gens, il y a quelque chose, quoi, c'est-à-dire d'une transcendance, de l'existence, d'un dieu qui a participé à la création du monde. Ça, je crois que c'est quand même relativement répandu. Ensuite, il était un dieu personnel avec qui un dieu de parole, un dieu personnel. Ça, c'est quand même autre chose. Et c'est peut-être ça la difficulté vis-à-vis de ces gens-là. Tu connais bien, toi, les stoïciens, les épicuriens ?
Alors, justement, j'ai regardé un petit peu ce qui pouvait être commun. Il y a un certain nombre de choses qui sont quand même communes. Il ne faudrait pas prendre les épicuriens au sens moderne, que l'on donne, où on imagine des jouisseurs uniquement préoccupés de bacchanal et autres carpe diem. Les épicuriens, comme les stoïciens, ont développé une notion de ce dieu unique. Ils ont dépassé en quelque sorte le panthéon classique grec. Vous savez, les grands mythes de tous ces dieux, de Zeus et compagnie, et ils en ont trouvé des principes ultimes. Et Paul lui-même en fait référence lorsqu'il parle de « Oui, nous sommes de sa race, c'est en lui qu'il nous est donné de vivre, de mouvoir, d'exister ». Il fait référence à des gens comme Aratos de Tars ou des stoïciens tout à fait connus, de la même façon qu'il rentre sur le principe unique. Donc il y a toute une théologie grecque. Et cette théologie grecque est évidemment bien éloignée du judaïsme. Mais en revanche, Paul en fait en quelque sorte comme un... Il est le premier à faire ce croisement entre Tars et Jérusalem. Et d'une certaine façon, Benoît XVI, par exemple, lorsqu'il fait ses discours sur l'origine du christianisme, il reprend très nettement la pensée grecque au croisement des principes juifs. Et donc, effectivement, il y a dans le stoïcisme et chez les épicuriens des principes que, d'ailleurs, les pères de l'Église ont appelés les logos spermaticos, c'est-à-dire les semences du Verbe. C'est-à-dire qu'il y a une tendance naturelle à se rapprocher du concept du Dieu unique, une tendance universelle d'ailleurs, à se rapprocher du monothéisme, à se rapprocher d'un certain nombre de principes comme celui du salut, comme celui de la création, comme celui d'une humanité, d'une seule race qui procède d'une création, etc. etc. Et ça, Paul le sait très bien, qui a été lui-même élevé et éduqué par des maîtres grecs, avant même que de rejoindre les maîtres juifs de Jérusalem. Donc, d'une certaine façon, il ne s'agit pas d'une controverse ridicule entre adversaires absolus. Il s'agit d'une confrontation, de ce qu'on pourrait appeler d'une dispute, d'une disputation, et à un moment, en effet, il y a une séparation. Mais il y a d'abord, dans le discours de Paul, une façon de se les mettre, j'allais dire, de son côté, une façon de capter l'attention en utilisant les mêmes concepts, et qui sont communs, encore une fois, le salut, le Dieu unique, le principe de création, l'humanité, des choses qui sont tout à fait positives, et en effet, qui font, en effet, je le crois fondamentalement, le lien entre la philosophie et la théologie. Et je crois que là aussi, nous vivons dans un siècle où malheureusement, philosophie et théologie se sont tellement affrontées ou ont tellement divergé qu'on ne les met pas dans un même élan. À l'époque de Paul, évidemment, cela procède du même principe. Et donc, il est possible de faire ce lien. En revanche, Paul, d'ailleurs, qui n'apparaît pas du tout comme un prophète, là, mais plutôt comme un philosophe, se retrouve avec eux contre les idoles. Parce que vous savez que la plupart des textes contre les idoles grecques ont été faits par les philosophes qui se moquaient d'une certaine façon jusque... Et on peut trouver dans la façon de faire de Paul une manière très socratique. Et d'une certaine façon, il est convoqué à l'aréopage comme Socrate l'avait été lui-même pour un tribunal qui le condamnait à mort. Mais il y a une confrontation qui est un peu du même type. Donc là encore, évitons tous les faux sens de croire que c'est de l'idolâtrie et du paganisme pur. Non, 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 non. C'est de la culture. Et là, c'est la confrontation entre la religion chrétienne et la culture de son temps. Voilà pourquoi je pense que là encore, il y a des leçons très fortes à prendre pour aujourd'hui. Ça s'appelle l'inculturation, ça s'appelle la théologie du dialogue, ça prend des formes extrêmement modernes et contemporaines, que ce soit d'ailleurs plus tard et aujourd'hui avec l'islam et avec tout l'Orient. Parce qu'au fond, c'est un peu de cela qu'il s'agit. Et d'une certaine façon, le christianisme n'aura aucun mal à détruire le paganisme dans l'Empire romain, aura beaucoup plus de mal à se séparer de toutes les religions orientales, de Mithra, des religions à mystère, des Égyptiens, etc. Donc j'allais dire, l'ennemi n'est pas celui que l'on croit. Parce que le paganisme et l'idolâtrie, j'allais dire, c'est très classique, au fond. C'est effectivement tout ce qui est ce que l'on appellerait aujourd'hui, d'une certaine façon, la pure superstition que l'on pourrait regarder du côté de chez les cartomanciens, les divinologues, toutes ces choses qui pullulent. Hein. Mais là, c'est pas très compliqué à attaquer. C'est beaucoup plus compliqué d'attaquer le New Age, d'attaquer des philosophies zen, bouddhistes, je ne sais quoi, philosophie de l'existence heureuse, et tous ces grands principes qui se vendent à millions d'exemplaires sur comment réussir la vie, être heureux, le sens de l'existence, etc., qui sont des choses beaucoup plus diffuses, très universelles, mais qui sont beaucoup plus pernicieuses. Et d'une certaine façon, c'est un peu le regret que Paul éprouve à Athènes. Parce qu'il a là le plus beau musée du monde de son époque, il a là les plus belles statues de Praxitèle et tout ce qu'on veut, et il en est dégoûté. Pourquoi ? Parce que le principe de toutes ces choses ne repose pas sur ce qui lui paraît l'essence même de la vie, c'est le Dieu unique et c'est le Père de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Et donc, là, il va se faire violent.
Alors, oui, c'est intéressant, cette inculturation, c'est-à-dire de rentrer dans cette culture, et je crois que, oui, on doit se rappeler que nous avons une place dans le monde des idées, et qu'on n'a vraiment pas à en avoir honte. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins de problèmes que ne l'avaient nos parents, nos grands-parents, finalement, parce que la philosophie nous respecte quand même. On a un vrai dialogue avec la philosophie, on a un vrai dialogue avec le monde des idées, qu'il n'y avait peut-être même pas il y a 20 ans, finalement, quand même. Par exemple,
même la phénoménologie.
Même, oui, mais c'est ça, oui, franchement, la phénoménologie, bon, on rentre en dialogue, il y a des gens comme Lévinas, comme Ricoeur, comme... des gens qui étaient donc croyants, pratiquants, qui sont reconnus comme des philosophes majeurs, qui enseignaient partout et qui étaient... donc voilà, je crois que ça, c'est quand même une chance. Et donc, je crois qu'il ne faut pas là, rater le coche. Il ne faut pas avoir peur ni de la science ni de la philo. C'est au contraire, la théologie, à mon avis, est une des branches complémentaires et pas du tout opposée à ces autres domaines, la psychanalyse ou je ne sais quoi. Donc... osons, comme Paul, entrer en dialogue, en débat avec ça. Alors tu disais, le christianisme a eu du mal de se débarrasser de ces religions, finalement. Mais dans un sens, c'est un peu la réponse du berger à la bergère, c'est qu'en fait, je crois qu'on s'est quand même laissé contaminer aussi par ces philosophies, et en particulier dans des choses qu'on retrouve dans un certain christianisme et qui n'étaient pas dans la Bible et pas dans l'Évangile non plus, finalement. Une sorte de méfiance du monde, finalement, de l'incarnation, une sorte d'apologie de l'ascèse, de la virginité, de choses comme ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, ça, c'est quand même, ça vient d'un autre univers, peut-être même pas Platon, plutôt Plotin, non ? Qui, avec, voilà, c'est ce que tu disais, avec l'idée du corps qui est une prison de l'âme, qui est donc pas si bonne que ça, mais on le voit avec Socrate, finalement, qui, lui, part joyeux de quitter ce monde. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont choqués quand Paul parle d'une résurrection, donc une insistance sur la vie en ce monde qui est belle, qui est... Ça, c'est choquant, parce que si on peut être libéré de ce corps, c'est une libération, finalement. Mais pas pour la Bible. La vie en ce monde est faite pour être belle. Et donc, quelque part, les épicuriens, effectivement, peut-être, qui étaient basés quand même sur une vie un peu peut-être en dehors des relations, je ne sais pas très bien exactement ce qu'ils pensaient, ou avec les stoïciens, je ne sais pas, il y a une rupture quand même dans la pensée, dans la façon de vivre dans le monde. On voit Paul, là, une théologie du Dieu qui s'incarne, c'est-à-dire qui aime le monde, qui le bénit, qui va à la rencontre de l'homme. Il y a une, peut-être que le plus grand mystère, au-delà même de la résurrection, c'est quand même plus l'incarnation. Voilà. C'est-à-dire, c'est peut-être ça la spécificité du christianisme. C'est ce Dieu qui va à la rencontre de l'homme, qui aime le monde, qui veut, je dirais, ressusciter l'homme dans la vie en ce monde, et pas simplement pour le projeter dans du monde en dehors de la matière.
Oui, alors justement, là, je voulais vous faire sourire à ce sujet. Lorsqu'il est question de, au verset 18, qui est très drôle, hein, ce perroquet, que peut-il vouloir dire? On dirait un prêcheur de divinités étrangères. Alors vous pouvez vous dire, mais pourquoi ils prennent Paul pour cela? Eh bien, c'est parce que ces messieurs très savants, lorsqu'ils entendent l'histoire de Jésus et de la résurrection, ils entendent un couple. Parce que c'est Anastasis, la résurrection. Et donc, ils se disent, mais qui est cette Anastasia qui est avec Jésus? Et qu'est-ce que c'est que ce couple de Dieu dont on veut nous vendre le... Donc, c'est très intéressant. C'est que là encore, on comprend à quel point, aujourd'hui comme hier, il y a beaucoup de choses dans notre religion qui ne sont pas compréhensibles immédiatement par les autres. Donc, n'employons pas trop de termes internes, parce que bien souvent ce sont des termes qui ne sont pas compréhensibles pour les gens extérieurs. Et donc au début ils croient vraiment qu'il y a Jésus et Anastasie, et bon, alors est-ce que c'est des machos ou je ne sais quoi, mais alors eux ils ne sont pas prêts à adorer Jésus et sa copine Anastasie. Donc ça, c'est la première chose. Alors après, quand ils comprennent, il y a encore une autre erreur qui est aussi en grec. C'est qu'à la fin, il parle bien sûr de la résurrection, mais il parle de la résurrection parmi les morts. Et eux, ils entendent la résurrection des morts. Et c'est ce que nous dit le verset 32. Ayant entendu la résurrection des morts, ils se moquaient, ou alors ils disaient, on t'entendra une autre fois. Ils ont là encore mal compris, car le grec qui était juste avant, le verset précédent, nous disait, en le ressuscitant, parmi les morts, c'est-à-dire, ça n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est un grand sujet, là aussi. C'est la question du corps. Et pour tous ces grands philosophes, évidemment, le corps, c'est vraiment du bas de gamme. C'est vraiment l'écorce, vous savez que nous, voilà. Et l'âme, c'est quelque chose de beaucoup plus noble. Donc, naturellement, l'idée même de la résurrection des corps, des cadavres, leur paraît insupportable, alors que Paul n'a fait que parler de la résurrection du Christ d'entre les morts. Ce qui veut dire que là encore, il y a un déficit d'explication, et que là encore, bien souvent, la religion est raillée, pour ce qu'elle ne dit pas. C'est-à-dire que bien souvent, c'est de l'incompréhension naît la dérision et le rejet. Mais précisément, ce que Paul vient leur présenter n'est pas ce qu'ils reçoivent. Donc, une première fois, ils croient que c'est un couple moderne qui nous vient du fin fond de l'Égypte, et ensuite, ils croient à autre chose. C'est comme s'ils avaient entendu le mot réincarnation au lieu de résurrection. Enfin, vous voyez ce genre de bêtises qu'on peut entendre, malheureusement, de la part de gens qui ne s'intéressent pas plus que cela à la religion. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que Luc aussi a rédigé ce texte d'une manière extrêmement ironique. Et l'ironie est à triple sens, parce que même lorsque Paul leur dit « Je constate que vous êtes en toute chose des hommes particulièrement religieux », je pense que là, on pourrait parler presque de double entendre, parce que, justement... À religion, religion ennemie, où est la religion, est-ce qu'ils sont... Mais il est vrai que c'est un discours qu'il aurait pu prononcer dans la plupart des grandes villes de l'Empire romain, où ça pullulait. Donc effectivement, il y a un trop-plein que Paul vient en quelque sorte balayer par la parole, et une parole tout à fait nouvelle. Et comme il sait que c'est folie pour les uns et blasphème pour les autres. Et c'est effectivement, il est effectivement, d'une certaine façon, aussi bien rejeté par la synagogue contre laquelle il est en conflit, parce que là aussi, dans cette résurrection, il y a quelque chose d'insupportable pour les Juifs, et dans la place publique philosophique des idées, où là aussi, il est mal entendu. Donc, enfin, c'est vraiment un passage très, très intéressant, je crois, plus intéressant que simplement de savoir s'il a réussi ou pas à Athènes, est-ce qu'il s'agissait de convertir Athènes. C'était pas le propos, c'était plutôt d'entrer dans le dialogue de la culture. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est un chef-d'œuvre.
Alors, moi, je trouve que c'est plutôt positif, finalement, ces Athéniens, quand même là, cette curiosité, finalement, hein, cette recherche, cette curiosité, oui, donc tu nous racontes des choses étranges, qu'est-ce que tu racontes, on s'y intéresse, et finalement aussi je trouve, cette multiplication des dieux, c'est peut-être une dispersion, oui, effectivement, d'avoir un million de lieux d'adoration différents sans qu'ils soient hiérarchisés, c'est peut-être quand même un problème, j'allais dire, existentiel, avant d'être un problème spirituel. Dans notre existence, je crois qu'il est bon quand même. Bon, on peut s'intéresser à un million de choses, être motivé par son travail, par son loisir, par sa famille, par Dieu, par autre chose encore. Je crois que c'est bien, si vous voulez, d'avoir une vie qui est comme ça, qui intègre de multiples lieux d'investissement très profonds, très sincères. Cela dit, il faut que les choses soient hiérarchisées, c'est-à-dire qu'il faut que les choses aient du sens et que, par exemple, nous propose Jésus, qu'on place Dieu, on pourrait dire au sens moral, existentiel, l'amour au-dessus du reste. C'est-à-dire qu'on aime sa famille, on aime ses proches, mais ce n'est pas en concurrence avec Dieu. Mais notre amour de Dieu, notre foi, notre adoration va informer l'amour que nous allons avoir pour notre famille et le rendre peut-être plus centré sur la grâce, plus centré sur le pardon, le transformer dans un sens. Voyez, donc ce n'est pas pour... Cette hiérarchie, c'est pas pour écraser les autres formes d'adoration, les autres lieux d'investissement personnel que nous avons, les autres lieux d'adoration, parce que je crois que justement le Dieu que nous propose Jésus-Christ peut dominer nos autres lieux d'investissement sans les écraser, les anéantir. Ce qui n'est pas forcément le cas des autres, du reste, si vous voulez. Si on place toute son existence, puisque lui, Jésus parle entre Dieu et Mammon, si vous voulez, qu'on ne peut pas à la fois adorer ces deux dieux-là, Dieu et Mammon. Si on place Dieu au sommet de la hiérarchie, on peut très bien avoir un rapport juste avec son argent et que notre argent ne nous possède pas, mais qu'on arrive à vivre cela, au contraire, comme un moyen d'agir et non pas comme un lieu où nous investissons justement notre vie, notre mouvement et notre être. Là, ce serait ennuyeux, à mon avis. Ce serait, si on investit toute notre identité, notre propre sentiment, notre dignité dans notre compte en banque, il y a là un vrai problème qui va tuer en nous la foi et qui va faire que notre vie, à mon avis, ne sera pas géniale. Donc, vous voyez, c'est une question de hiérarchisation. Cette multiplicité de dieux, de toute chapelle à tous les coins de rue, ça peut aussi évoquer notre existence. C'est pas mauvais en soi, je crois, d'avoir cette multiplicité de lieux d'investissement, de points d'intérêt, de la science, de la culture, de l'art, de la famille, du travail, tout ça, c'est très bien. Mais il faut quand même, un pôle fort qui donne du sens à tout ça et qui permet d'harmoniser le total. Moi, j'aime bien cette parabole de Jésus avec la graine de moutarde, vous voyez, qui pousse et qui grandit au-dessus des légumes. Donc, à la limite, le reste, c'est comparé à des légumes. Voilà, l'argent, c'est bon comme un légume est bon. Ça peut nourrir son homme, si je puis dire, sa femme aussi, pareil. Et donc, c'est utile et bon, c'est en soi. Mais il faut quand même avoir l'arbre qui pousse et qui domine les légumes et qui vient abriter les oiseaux du ciel. Si vous voyez cette parabole qui est, je crois, dans... C'est quoi? C'est Matthieu 13 et Luc 13 aussi, d'ailleurs, je crois. C'est les paraboles du royaume, on dit. Oui. Donc, par rapport à cette... Moi, c'est à ça que me fait penser cette multiplicité, si vous voulez, de lieux de dévotion aux quatre coins. Et j'ai bien aimé, moi, cet autel à un Dieu inconnu, si vous voulez. Parce que là, je crois qu'il y a deux choses qui est bien. D'abord, c'est ce qu'on a appelé la théologie négative ou de Maître Eckhart, des mystiques. C'est qu'en fait, il faut reconnaître que Dieu est dans un certain sens un Dieu inconnu, c'est-à-dire un Dieu qui reste de toute façon inconnaissable à l'homme. On ne peut rien dire de je dirais, d'exact et pertinent totalement sur Dieu. On ne parle que par parabole, que par comparaison, et c'est toujours relatif. Donc il faut toujours garder, je crois, cette idée que Dieu est le Dieu inconnu, ce Dieu mystérieux auquel on fait une place et qu'on découvre un peu à travers Jésus-Christ, mais en gardant quand même ce respect pour le mystère.
Oui, en poursuivant là-dessus, il me semble que c'est Thomas d'Aquin qui dit que, au fond, là encore, c'est pas de la théologie négative, mais on peut dire ce que Dieu n'est pas, mais on peut absolument pas approcher ce que Dieu est. Donc, on sait ce qu'il n'est pas. Il n'est pas fini, il n'est pas, etc. Enfin, il est tout le contraire. Mais je crois que, justement, moi, je lis la page de droite là que vous avez. Je la lis comme une profession de foi. Comme un symbole de Paul absolument admirable. Je trouve que il essaye justement de définir ce Dieu-là, ce Dieu qui a fait le monde et tout ce qui est tout ce qui contient, qui n'habite pas les temples construits par l'homme, qui ne se fait pas servir par la main des hommes, qui n'a besoin de rien, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. Je trouve que ça, c'est vraiment tout à fait admirable. Et je crois que quand on connaît la servilité des hommes par rapport à leur Dieu, quand on connaît la peur de Dieu, quand on connaît tous ces cultes à sacrifice, lorsqu'on sait qu'il y avait des sacrifices d'enfants, c'est vraiment pas des religions simples. Hein, lorsqu'on sait tout ce qu'on devait sacrifier au Dieu, parce qu'il s'agissait de cela, il s'agissait de s'accommoder avec un maximum de Dieu pour avoir le moins de malheur possible. Eh bien, ce Dieu-là, le Dieu de Paul, libère l'homme de sa servitude. C'est un Dieu qui donne, ce n'est pas un Dieu qui demande. C'est un Dieu qui n'a pas besoin de nos sacrifices. C'est un Dieu qui nous aide et qui nous sauve. Et d'une certaine façon, il y a cette gratuité qui est en fait une synthèse juive et grecque, en quelque sorte, on arrive à Jésus-Christ, hein, qui est son incarnation, mais il y a une condamnation très forte de toute la théologie sacrificielle de l'homme. C'est-à-dire que nous ne sommes pas les esclaves de ce maître tout-puissant, mais au contraire, nous sommes les altères, en quelque sorte, non pas alter ego, mais à un moment, il est question de dire qu'en effet, c'est nous sommes de sa race. Et ça, on est très proche de la théologie de la création, de la Genèse. Nous sommes créés à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, nous sommes créés. Et je crois qu'il y a là, en effet... Je trouve dommage que ces philosophes n'aient pas perçu à quel point il y avait là une libération de toutes les religiosités, de toutes les crédulités et les superstitions qui pouvaient emprisonner l'homme. Mais vraiment, ce Dieu qu'il présente est un Dieu libérateur, même si, voici que maintenant, bien que ce Dieu ait décidé de ne tenir compte en aucun cas du temps où les hommes l'ont ignoré, voici que maintenant, le kairos, le temps est venu, Christ est né, Christ est mort, Christ est ressuscité, et donc maintenant, il faut se convertir. Donc là, par contre, il y a un tournant. Comme il y a un tournant dans la phénoménologie qui a un tournant théologique, eh bien là, il y a un tournant, il y a une urgence. Il a fixé le jour où il va juger l'univers avec justice. Dieu nous parle, mais il nous a envoyé Jésus-Christ et maintenant il va falloir choisir son camp. Donc attention, ne prenons pas Paul pour un doux rêveur qui essaye de se concilier toute l'humanité. Il a une mission. S'il est là pour évangéliser, c'est pas pour qu'on s'endorme sur nos lauriers. C'est quand même et d'abord pour nous convertir à ce Dieu-là en la personne de son Christ. Voilà. Et là, ben, évidemment, ressuscité. Et là, pierre d'achoppement. Là, on n'est plus tellement dans le dialogue. Il y a ce tournant. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir ce monothéisme spéculatif, mais à un moment, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a, c'est vrai, il y a un saut... qu'à un moment, Paul se doit, par vérité et par loyauté, d'annoncer, c'est qu'à un moment, il faut croire en son Fils ressuscité. Et ça, là, on n'est plus dans de la spéculation et dans le dialogue.
Alors, par rapport à ce Dieu inconnu, il dit, voilà, c'est quand même mieux de connaître, en fait. Et ça, c'est, je crois qu'il y a quand même là quelque chose d'intéressant. En particulier, il y a des, par rapport à la foi du charbonnier, c'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, il y a une expérience de Dieu, une certaine expérience de Dieu qu'on peut avoir. Il y a une certaine connaissance qu'on peut avoir à partir de la nature, de l'idée d'un Dieu créateur. Comme tu disais, c'est quand même assez généralisé dans les cultures. Mais voilà, il faut quand même, voilà, ce que vous révérez sans le connaître, ce que vous adorez sans le connaître, eh bien, moi, je viens vous annoncer. Et c'est vrai que là, il y a quand même aussi, je crois, quelque chose qui est intéressant, j'allais dire, dans l'Église. C'est que, oui, en théorie, on peut être simplement chrétien tout seul, en relation avec Dieu, car quand on prie tout seul, on n'est pas seul, puisque Dieu est là. Mais il faut quand même avoir cette démarche, et ça, je crois qu'on l'a quand même pas mal apprise aussi, cette démarche de la philosophie grecque, c'est-à-dire, il faut avoir une démarche de connaissance, d'explicitation, et ça, c'est quand même les uns par les autres, c'est quand même en Église. Et en particulier dans le rapport à l'Écriture, aux Écritures, devrais-je dire, car c'est un pluriel, la Bible, c'est au singulier, hein, c'est marqué la Bible, mais c'est, mon avis, c'est de mauvaise traduction. C'est les Écritures, si vous voulez, c'est au pluriel, c'est très pluriel, la Bible. Il y a des centaines d'auteurs qui ont des sensibilités différentes. Et je crois que ça, c'est intéressant d'entrer dans ce monde de dialogue, car voilà, ce que nous révérons sans le connaître, ce que nous adorons sans le connaître, parce que nous en avons simplement peut-être une intuition, une expérience, c'est intéressant de le mettre en débat avec d'autres par rapport à l'expérience d'autres, en particulier donc par rapport à l'Écriture. Tout en gardant, je crois quand même, dans un coin de notre tête, que Dieu reste le Dieu inconnu, le Dieu que nous cherchons, puisque vraiment, c'est marqué là, hein, voilà, ce Dieu qui nous a créés, il nous a créés pour qu'on le cherche, que l'homme s'efforce de le trouver, comme en tâtonnant. Donc il y a toujours, il faut garder toujours cette part de recherche, cette part de démarche de recherche. Ça, c'est le verset 27, où il y a marqué, voilà, qu'est-ce qu'il y a marqué
le... Chercher Dieu, détain, tâtonner.
D'entrer en contact, lui... il n'y a pas marqué tâtonner en traduction, il y a marqué tâtonner dans le grec, oui, c'est ça, oui. Comme à tâton, voilà. Hein. Et ça, je crois que oui, c'est intéressant d'avoir, de sentir que ce Dieu, oui, il est fondamental, c'est dans notre nature, dans notre vocation, de le chercher, mais que nous le cherchons toujours comme à tâton, c'est-à-dire comme s'il nous manquait un des sens pour le découvrir, donc avoir une humilité que finalement nous ne saurons jamais la couleur de Dieu, finalement. Nous pouvons en avoir une perception comme à tâtons, mais nous le verrons face à face, comme dit Paul un peu plus dans la lettre aux Corinthiens, que plus tard. Voilà. Donc moi je trouve y a l'idée, voilà, que Dieu a fait toutes choses, il n'habite pas des temples faits de mains d'hommes, et donc il y a une distinction, c'est un peu paradoxal quand l'homme qui se sait créé par Dieu va se créer des idoles avec ses mains pour les adorer. Voilà, il dit, c'est pas logique. Si c'est le Dieu qui est source de la vie, du mouvement et de l'être, vous allez ensuite avec vos petites mains fabriquer un machin en bois, en métal, et vous allez l'adorer comme si c'était Dieu. Ça tient pas debout, vous voyez. Alors ça paraît évident quand c'est dit comme ça, mais c'est ce que nous avons forcément tendance à faire, si vous voulez. Donc, on se forge notre petite théologie, on se forge notre petite religion, nos petits rites, et puis voilà, on dit, voilà, Dieu est là, finalement, Dieu habite là. Et c'est toujours le risque, c'est toujours ce risque, c'est pas réservé aux Athéniens, c'est notre risque à tous, d'être dans ce côté illogique, où on use d'anthropomorphisme, on use de symboles, et en même temps, comment faire autrement, si vous voulez. On dit, je ne sais pas, Dieu existe. Bon, et ça nous semble important de dire que Dieu existe. Mais de toute façon, rien qu'en disant ça, Il faut se rappeler sans cesse que Dieu n'existe pas au sens où le reste existe, le reste des choses existe. Donc, quand on dit Dieu existe, en même temps, on dit une vérité, en même temps, on dit quelque chose qui est un blasphème et quelque chose qui est ridicule, si vous voulez. Dieu n'existe pas au sens commun du terme. Il existe autrement, comme justement, comme là, comme source de ce qui existe. Donc, à un autre niveau, c'est... Et ça, je crois qu'il faut toujours se rappeler que quand on dit, quand on utilise des mots tout simples, des vérités aussi fondamentales que Dieu existe, qu'il faut garder l'écart de se dire, ben voilà, en même temps je dis ça, parce que je ne sais pas comment en parler autrement, mais voilà, il faut que je garde cet humour qui dit, ben voilà, en même temps je le dis, et en même temps, je devrais presque le retirer, si vous voulez. Donc, c'est finalement le programme de Jésus, hein, dans Jean 4, il dit à la Samaritaine, l'heure vient où les vrais adorateurs de Dieu l'adoreront en esprit et en vérité. C'est-à-dire que voilà, c'est ça quand même. C'est quand même quelque chose qui est là à garder, je crois, dans un coin de notre mémoire, tout en osant utiliser le langage, la théologie, les sacrements, la religion, en la remettant à sa juste place, ce que là, je crois, Paul nous invite à faire sérieusement. Voilà. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est lui qui nous donne la vie, la respiration, à toute chose. Mais ça, c'est quand même... oui, il faut se le rappeler, car nous, voilà, on rend un culte à Dieu et on croit lui rendre service, si vous voulez. Mais je crois que c'est juste que nous le fassions. C'est juste que nous le fassions parce que ça fait partie de cette recherche. Vous voyez, ça fait partie de notre vocation. Mais bon, il faut se rappeler quand même que Dieu est Dieu, et ça, c'est quand même, à mon avis, assez utile. Oui, c'est quand même assez utile. Et puis le fait que Dieu, au-delà, finalement, est source de tout ce qui existe, a créé tout ce qui existe, ça, c'est quand même déjà... Là, les philosophes stoïciens et épicuriens, à mon avis, ont quand même grincé des dents, et tu parlais du New Age. Voilà, Dieu, on est au printemps, on est content que les arbres fleurissent et que les fleurs fleurissent, que les arbres voilà, se bourgeonnent et tout ça, et fleurissent, mais Dieu n'est pas le printemps, si vous voulez. Dieu n'est pas l'âme du monde, et puis ce qui fait les arbres pousser, etc. C'est d'un autre ordre, quand même, c'est d'un autre ordre, voilà, je crois. Et puis à travers cette théologie que nous propose Paul dans ses versets, voilà, Dieu est la source, voilà, c'est le commencement, il a fait ça par grâce, il avait besoin de rien, et il donne la vie, le mouvement et l'être à l'homme. Ça aussi, il y a un retournement par rapport à bien des, je pense, de la théologie, hein, des Romains en tout cas, peut-être des Grecs, et de bien de nos contemporains. Dieu n'est pas là à compter les petites choses pour nous donner des bons points et pour nous donner des bénédictions si on le prie assez bien et assez fort, si vous voulez, en se disant, voilà, je connais quelqu'un qui est malade, je vais bien prier pour lui, il va guérir. Non, mais il ne faut pas rigoler, si vous voulez. Dieu est la source du mouvement de la vie et de l'être. Donc, ça ne marche pas comme ça, si vous voulez. Il n'a pas besoin qu'on aille faire un sacrifice de poulet comme si ça lui faisait plaisir, si vous voulez. C'est quand même... là, je crois qu'il remet les choses en perspective. Dieu est grâce, quoi. C'est lui qui donne gratuitement à tous, pas simplement aux justes, pas simplement aux bien religieux. Il donne à tous la vie, la respiration. Là aussi, c'est du Jésus-Christ, on dirait, hein, qui dit, voilà, Dieu fait pleuvoir sur les justes comme sur les méchants. Il fait lever son soleil sur les justes comme sur les méchants. Il est source de vie pour les grands nobles comme pour l'esclave. Ça, c'est quand même aussi, ça devait faire grincer, ça, quand même. Et d'autres disaient, mais moi je suis citoyen, je sais pas, je suis membre du Sénat, de l'Aéropage, je sais pas comment marchait leur boutique, oui, si je puis dire, mais il y avait sûrement une noblesse. Il dit, bah écoutez, le dernier des esclaves qui vient du fond de l'Éthiopie ou de la Namibie, bon, ben voilà, il balaye il nettoie vos toilettes, et bien il est votre frère, quand même. Ça, c'est faux quand même. Il faut voir ce que ça représente. Hein. C'est quand même incroyable, si vous voulez. Et vous êtes tous le petit esclave le plus dégradé et puis le plus grand noble. Vous êtes, frères et sœurs, au bénéfice de la grâce de Dieu l'un comme l'autre. C'est quand même... Non, vous ne trouvez pas que là, il y a quelque chose qui est fort, quand même, je trouve, qui est fort comme théologie, comme annonce de la théologie de la grâce. Et ça, déjà, on a du Jésus-Christ, on a de l'Évangile, de voir ce Jésus-Christ qui allait J'allais dire embrasser les lépreux comme François d'Assise, ou c'est plutôt François d'Assise comme Jésus-Christ, mais... Mais voilà, je crois qu'il y a déjà là quand même quelque chose qui est fort, qui va aussi bien chez les grands riches, les grands nobles, les trop religieux, chez les pas assez religieux, chez qui va visiter un fou dans une grotte, et qui va visiter, oui, les grands nobles, et qui discute avec l'un comme avec l'autre. Déjà, je trouve que c'est pas mal.
Oui, et tout à l'heure, je disais que dans ce discours, Paul apparaissait davantage comme un philosophe que comme un prophète. Mais là, il retrouve des accents prophétiques.
Oui.
Et notamment lorsqu'il s'agit, mais là, il rejoint les philosophes, lorsqu'il s'agit de critiquer les idoles, de critiquer les religions populaires et les mythes un peu fondateurs. Hein, là, très clairement, on retrouve Osée, Isaïe, la sagesse, etc. Et justement, je me disais en t'écoutant que, au fond, s'il y avait une telle ligne biblique, c'est qu'il y avait une persistance de ces croyances. Et que Paul ayant parlé, d'ailleurs, ça n'a pas effacé pour autant de telles croyances. Je crois qu'en effet, il y a dans l'homme, dans notre humanité actuelle, un paganisme et une idolâtrie qu'il faut convertir. Je crois que la métanoïa, elle est aussi à ce niveau-là. Et c'est là que ça devient très compliqué, c'est qu'il ne faut pas confondre la superstition et la croyance, et que la prière est effectivement quelque chose de très délicat, parce qu'il est très difficile de savoir ce que la prière est et ce qu'elle n'est pas, et dans quelle mesure on tombe dans de la superstition, ou au contraire, on est dans la solidarité, l'amour, le don gratuit, etc. Et je crois que notre prière doit s'affiner aussi à la lecture de ces textes. Ça ne veut pas dire qu'il faut cesser de prier, ça ne veut pas dire qu'il faut cesser de demander, ça ne veut pas dire qu'il faut cesser d'y croire. Bien au contraire, il faut vraiment y croire, il faut vraiment demander, il faut vraiment prier. Mais c'est peut-être abandonner un certain nombre de superstitions très humaines, bien naturelles, qui feront qu'on a tous envie le fils ou la fille ait des bonnes notes à ses examens, qu'elle réussisse ses études, que je sais pas quoi. Mais je ne sais pas si c'est en mettant une bougie qu'on va réussir l'exercice de maths proposé au concours. Je ne sais pas. Mais bon, voilà. Il y a sûrement tout. Et je crois que dans l'Athènes cultivée culturelle de ce premier siècle, il y a tout cela. Il y a les plus grandes avancées de la science, de la technique et de la pensée de l'époque. Il y a les plus belles réalisations artistiques. Mais j'allais dire, comme Jacques Chancel, est Dieu dans tout ça? Et c'est, je crois, une question où j'entends de la belle musique là derrière. J'observe bien souvent dans nos belles églises et temples de très beaux concerts. Mais est Dieu dans tout ça? Et je me dis, est-ce que un amateur de grande musique est un homme priant? Est-ce que un grand artiste est un priant? Et je ne suis pas du tout sûr que ce soit automatique. Et lorsque je vois le comportement de certains grands amateurs lyriques, etc., au sortir même et à l'intérieur même de nos églises, je suis catastrophé, comme Paul à Athènes. Voilà, n'est pas religieux celui qui écoute de la belle musique de Bach ou de Beethoven, je ne crois pas. Donc il y a, je crois, quelque chose qui est là à affiner chez nous-mêmes. Hein, chez nous-mêmes. Méfions-nous des idoles qui se cachent derrière... les plus belles réalisations humaines, les plus belles cathédrales et les plus beaux temples. De là, tout casser et enlever toutes les belles images, je n'irai pas jusque-là, mon cher.
Non, ce qui est peut-être dommage, c'est de penser que Dieu habiterait dans ces murs. Hein, ouais, voilà, ouais. Ou que Dieu... peut-être que finalement, les gens verraient plus le Dieu providentiel, le Dieu de la Providence, dans la sécu, dans le gouvernement. Non, c'est ça, dans une... Voilà, hein. C'est vrai qu'on est dans une ville qui est très bâtie, et ça c'est peut-être la difficulté de la ville, c'est qu'on regarde autour de nous et le Dieu créateur, ben, finalement c'est les bâtisseurs, c'est la sécu, c'est l'État, et on dit ben, que fait la police, que fait le gouvernement, il y a un trou dans le trottoir, et c'est vrai, si vous voulez, que c'est peut-être plus difficile pour l'habitant vraiment très, très urbain, eh bien de sentir ce Dieu créateur, peut-être. Oui. C'est peut-être plus difficile.
Oui, alors il me semble que là, ça tombe très bien pour notre thème cité biblique, parce que vous avez vu, on est parti de Babel et on est arrivé à Athènes. Au fond, sans doute que Athènes, d'un point de vue réalisation humaine, on peut le voir encore aujourd'hui, hein, malgré les crises, c'est pas mal. Mais est-ce vraiment de cela qu'il faut s'enorgueillir? Est-ce que le souk de Jérusalem correspond pas davantage? Je ne sais pas, mais il y a une vraie question autour de la ville, autour des constructions. Babel en était un très bel exemple. Hein, voilà, à force de vouloir monter très haut et de faire la plus belle tour et je ne sais quoi, on n'a pas gagné le ciel, si j'ose dire. Et je crois que c'est une question... On s'est demandé à Capharnaüm, d'ailleurs, tous ces reproches que Jésus faisait aux villes, toutes ces idoles que l'on trouvait à Jérusalem, ces villes qui se retournaient, ces remparts bien fiers de Jéricho, cette ville pécheresse de Babylone, etc. etc. Là, on en arrive à la question finale, aujourd'hui où le monde entier est devenu urbain. Vous savez que depuis seulement quelques années, la population urbaine dépasse mondialement la population non urbaine. C'est-à-dire pour la première fois, je crois, de la civilisation humaine, il y a plus de population en ville que dans les champs, dans les déserts et autres endroits que l'on trouverait. Et l'urbanisation est une question du 21e siècle. Qu'est-ce qu'on va faire de cette façon dont on construit, détruit, colonise et je crois qu'il y a derrière tout cela un questionnement qui est profondément religieux. C'est-à-dire, pour faire quoi, à l'heure où on est en train de rebâtir tout le Forum des Halles, etc., quel est le sens et sur quoi faut-il attirer l'attention? Eh bien, je ne suis pas sûr que les réalisations les plus belles qui sont en train de se faire un peu partout, tous les gros chantiers, répondent bien à ces questions. Questions qui ne sont pas simples et qui, là encore, qui rejoignent un petit peu le sens de nos vies, au fond. Et au fond, nos villes devraient refléter plutôt cela. Or, ce que l'on voit des résultats de l'urbanisation pour l'instant, je suis sûr que Paul s'énerverait encore un petit peu.
Alors, si on a plus de mal peut-être que d'autres à voir le Dieu créateur à travers la nature, il nous reste quand même, je crois, ce qu'il nous propose, c'est de voir une image de Dieu dans l'homme, en fait. Et ça, c'est vrai qu'on dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, donc on dit, on connaît même le mot en latin, hein, c'est-à-dire l'homme imago Dei, non ? Mais d'ailleurs, Jérôme Prigent nous faisait une conférence, vous voyez, dans la nuit de vendredi à samedi, on avait une nuit entière de philosophie dans l'oratoire, en fait. C'est une idée un peu folle, mais je ne sais pas d'où c'est sorti, enfin, c'est comme ça. Il a parlé sur le livre du monde, en fait, sur le monde, voilà, comme étant un livre où Dieu se révèle aussi. C'était très intéressant et je trouve qu'il nous a bien... D'abord, il a eu le courage de venir à parler à 4h du matin pour faire une conférence de philosophie, ce qui est quand même plutôt sympa et serviable. Et en plus, c'était intéressant. Donc oui, alors le monde est un livre, c'est vrai, je crois, dans lequel on peut lire quand même un peu Dieu. L'homme qui est en face de moi, hein, tous les hommes, en fait. Dans un sens, c'est aussi un livre dans lequel je peux voir Dieu, si j'y mets un peu de bienveillance, dans un sens. Mais je crois qu'au fond de nous, il y a quelque chose là qui s'est inscrit, qui s'est gravé de ce Dieu que nous adorons. Et ça, c'est aussi une sacrée annonce, j'allais dire, de bienveillance et puis de recherche de Dieu dans nos frères et sœurs. C'est quand même ça, c'est sympa. Alors, voilà, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant. Donc, il y avait comme un Dieu qui était inconnu, qui était un peu, qu'il fallait chercher à tâtons. Maintenant, il parle en particulier donc en Jésus-Christ. Voilà. La résurrection, dans un sens, ça n'a pas tellement d'importance ici, si ce n'est que c'est finalement un peu une preuve. Voilà, ça donne une preuve, mais l'essentiel, c'est quand même Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est lui qui est l'image de Dieu, et en Jésus-Christ, il y a Dieu qui se révèle. En Jésus-Christ, d'une manière ultime, mais aussi dans tous les hommes, finalement, peut-être dans une certaine mesure, même si c'est ultimement en Christ. Et donc là, il y a quelque chose de supplémentaire dans cette révélation de Dieu. Mais il y a donc un appel, une annonce, Dieu lui-même se révèle et parle, et ça je crois que c'est quand même quelque chose qui est nouveau. Il parle à tous. Donc c'est une annonce qui est importante, je crois, et qu'on retrouve dans les Actes des Apôtres, mais qui dans un sens fait polémique avec les musulmans, c'est-à-dire que les musulmans disent le Christ, il a annoncé qu'il y aurait le paraclet, un autre prophète finalement, qui parlerait à la suite de Jésus-Christ. Alors ils disent, le paraclet c'est Mohammed, voilà, qui est venu après, qui était annoncé par Jésus-Christ, qui annoncerait toute chose d'une manière ultime. Sauf que, si vous voulez, dans la nouvelle alliance, hein, Paul dit, oui, c'est une nouvelle doctrine, une nouvelle alliance, qui était annoncée par les prophètes, les grands prophètes, Isaïe, Jérémie, peut-être d'autres aussi, c'est que dans l'ère du Messie, tout le monde serait prophète. Eh bien, c'est ce que Paul dit ici, c'est que Dieu se révèle maintenant à tous, en tout lieu. Même si c'est en Jésus-Christ, mais c'est à tous, en tout lieu, qu'est donné l'Esprit. Donc tous nous serons prophètes. C'est ce qui est marqué dans les Actes, je ne sais plus où, dans le discours de Pierre, hein, dans le, peut-être c'est Actes 3 ou 4, je ne sais pas quoi. Vos fils et vos filles prophétiseront, les vieillards parleront de Dieu comme ça. Donc une transformation de notre pensée. C'est quoi cette conversion, se repentir? C'est pas moral, si vous voulez. C'est un changement. Dans la traduction là qu'on a entendu, c'était la qu'est-ce qui a marqué dans le verset 31? C'était 31. Le verset 30. Se convertir. Oui, se convertir.
Transformer la pensée.
Là, il y a marqué transformation de la pensée, transformation du regard, transformation de la façon de concevoir. C'est une sorte de révolution copernicienne finalement qui nous est proposée. Cette révolution, c'est chercher par soi-même, peut-être, non ? Chercher par soi-même, parce que là, il dit que l'homme était vraiment fait pour chercher Dieu. C'est se placer à l'écoute de cette annonce directe de Dieu, hein, qui est annoncée là au verset 30. C'est le découvrir particulièrement, ultimement, en Jésus-Christ, un homme qu'il a désigné. Mmh. Un homme qu'il a désigné, voilà, pour juger finalement, pour juger le monde selon sa justice. Ça, c'est le rôle de Jésus-Christ, de juger le monde selon sa justice. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là, finalement, hein? Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est un service que rend le Christ, finalement, non? De révélateur, peut-être, c'est ça? De dire ce que, voilà, d'appeler un chat, de dire la vraie valeur des choses, des êtres, du monde, le sens, voilà, peut-être aussi au sens plus fort de juger, hein, au sens hébraïque du terme, peut-être, c'est gouverner, c'est-à-dire c'est le Christ qui transforme le monde, peut-être, hein, c'est un jugement, c'est pas un jugement de l'examinateur qui met des notes et qui dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est pas le contrôle qualité, si vous voulez. Je verrais plus un jugement au sens hébraïque du terme, c'est-à-dire un gouvernement du monde. C'est un ensemencement du monde, si vous voulez, puisque là on parlerait du logos spermaticos, c'est-à-dire que c'est une transformation un gouvernement du monde par une nouvelle création, si vous voulez, non ?
Oui, justement, alors là, je voulais relancer l'idée que tu avais reprise avec Paul, là. J'avais noté que la création est un livre ouvert. Et au fond, un livre ouvert à poursuivre. Et il me semble qu'on y a beaucoup réfléchi sur le temps pascal, enfin plutôt le temps de la semaine sainte, sur le sens même de la mort et de la résurrection du Christ. Et il semble qu'une des réponses qui soit les plus pertinentes à mon sens, c'est que justement cette création, en quelque sorte pour des raisons X ou Y, que nous ne pourrons pas développer ici, a été comme bloquée par... il y a eu un bug. Et d'une certaine façon, le Christ relance la création. Lorsqu'on dit que c'est l'homme nouveau, c'est plutôt la création qui repart. Parce que le Christ endosse la difficulté qui fait que la création à l'image de Dieu est en quelque sorte... Il y a eu un grain de sable là qui a faussé les... Et d'une certaine façon, l'humanité se retrouve en quelque sorte relancée. Et donc... La question est de savoir si on est dans une nouvelle création ou si en fait ce n'est pas la création qui tout simplement en Christ est relancée avec cette garantie, comme il le dit, c'est un très beau mot, la garantie, j'ai trouvé aussi la preuve, c'est pistis, hein, ça, le, dont la, je cherchais dans mon texte grec, je l'ai trouvé, oui, la garantie au sens...
le sceau, un peu, c'est
quoi ? Oui, c'est un peu ça, voilà. Et donc, d'une certaine façon, la résurrection devient, en effet, quand Paul dit « sans la résurrection, notre foi est vaine », c'est que la résurrection, c'est la preuve que cette création, elle aboutit. Elle aboutit pour toute l'humanité, alors que quelque chose que l'on a appelé serpent, vous vous rappelez, la part obscure, etc., avait faussé le projet de Dieu en l'humanité. Et d'une certaine façon, avec cet homme qu'il a désigné, c'est-à-dire celui qui a vécu parmi nous, avec nous et comme nous, et donc là j'ai envie de dire que toutes les disputes des 3e et 4e siècles sont abolies dans ce texte, parce que c'est vraiment un homme, Jésus est vraiment un homme, fait Christ par sa résurrection, désigné, donc, alors de toute éternité, ça je ne sais pas, mais en tout cas, un homme choisi par Dieu, incarné en quelque sorte, pour être parmi nous le Sauveur, et que ce Sauveur est notre garantie, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, que la création aboutit bien, et que nous serons, et que nous sommes sauvés par lui, avec lui et en lui. Et d'une certaine façon, on a l'impression que le discours philosophique de Paul trouve est extrêmement, au lieu d'être cet échec qui s'arrête au milieu comme certains le présentent, je crois, il a tout dit et tout est dit. C'est pourquoi je disais que c'était, selon moi, une très très belle profession de foi qui méritait d'être d'autant plus étudiée dans le monde dans lequel on vivait, puisque c'était une très belle synthèse entre la culture et la foi. Voilà, il me semble que tout est dit, Dieu nous parle en Christ, le Logos, alors il n'emploie pas ce terme-là, la croix, voilà, mais en revanche, le public athénien, j'allais dire, la préparation évangélique est faite, mais le public n'est pas prêt à le suivre, sauf ce Denis, membre de l'aéropage, hein, Denis l'aréopagite, qui aura un destin tellement important que même en France, Saint Denis de la Basilique sera rattaché à sa succession pour en trouver une origine christique. Donc pour vous dire l'exemple que ça la pouvait être. Bon, la pauvre femme nommée Damaris, elle a perdu, elle a été perdue dans les siècles et on n'en a jamais retrouvé trace. Mais ce Denis, on l'a gardé.
Alors, on lui a collé pas mal de choses sur le dos parce que comme il y avait un nom qui était là, ça faisait quand même Denis l'aéropagite, c'est pas mal.
Oui.
Alors, il va y avoir des livres apocryphes, en fait, qui vont lui être collés sur le dos, écrits au 4e, 5e siècle. Et puis, effectivement, je crois que c'est au 9e siècle qu'il y a quelqu'un à Paris qui s'est dit « Tiens, à qui on pourrait raccrocher notre basilique, Saint-Denis ?» Bon, il y avait un Denis de Paris. On dit « Bon, ça doit être le même. » Et puis, comme ça, ça le raccroche. Et puis, en fait, bon, c'est complètement fantaisiste, bien entendu.
C'est pas complètement fantaisiste. De la même façon que Lazare est le premier évêque de Marseille, Denis est le premier évêque d'Athènes et de Paris. Voilà tout.
Alors cela dit, pour dire voilà, qu'il y avait un grain de sable, moi je suis plus réticent quand même. Je dirais que quand même,
Ah.
Bon, qu'il y ait des grains de sable dans la création, Dieu était quand même, devait bien le deviner. Cela dit, je pense que Christ est plus, si vous voulez, qu'un pompier ou qu'un réparateur de vieilles guimbardes. Je pense que c'est plutôt une nouvelle étape dans la création, c'est-à-dire c'est une étape supplémentaire, mais que de toute façon, ça aurait été nécessaire d'avoir cette nouvelle étape. Et ici, quand on voit le développement, on a bien, je crois, cette idée que voilà, parce qu'il l'a fixé un jour, voilà, c'est utile, c'est nécessaire de passer dans cette étape supplémentaire, d'avoir eu une première étape où c'était comme à tâtons, finalement, qu'on ne savait pas trop, et puis cette deuxième étape où tous, hommes et femmes, de tout lieu, seront prophètes, c'est-à-dire pourront vraiment entendre l'annonce de Dieu, et puis cette puissance qui est développée en Christ pour juger le monde, c'est-à-dire pour... Oui, à ce moment-là, pour éliminer ce qui ne va pas, et puis pour mettre sur le dessus le bon côté, voilà, c'est, je crois que là, oui, il y a un ensemencement du monde, une étape... C'est pas un renouvellement de la création, c'est comme le deuxième étage d'une fusée, finalement. Il y a un moment, bon, le premier étage est brûlé, on atteint une étape, et il y a une deuxième fusée, un deuxième moteur qui se déclenche pour aller plus haut, pour aller plus loin. Je verrais plus ça comme ça, moi, comme une... voilà, on a au contraire, on a atteint un certain développement dans l'humanité, dans le développement de l'humanité, et bien vient le temps où une deuxième étape est enfin possible, dans un sens, et c'est mûr pour cette deuxième étape. On a bien cherché à tâtons, vient maintenant l'étape du lien direct avec Dieu, vient maintenant l'étape de cette transformation du monde par le Christ. Voilà. Et je trouve que c'est, moi là, c'est quand même... bon, je pense que c'est quand même assez osé. On dirait ça aujourd'hui, on serait déclaré comme en dehors des très saints conciles œcuméniques, comme tu l'allais dire, de Nicée-Constantinople, un homme choisi par Dieu, avec la mort et la résurrection qui sont en fait comme un sceau, une preuve, mais là n'étant pas l'essentiel. Et Paul va beaucoup insister là-dessus, hein, tout au long de ses épîtres. La mort du Christ, elle sert à manifester l'amour de Dieu, finalement. Elle sert comme lieu de manifestation, de preuve. C'est encore du témoignage. C'est comme un sceau, une preuve. C'est visible. Mais ce n'est pas quelque chose de magique, finalement. Et la vraie transformation du monde, elle est plutôt dans la personne du Christ et dans son action finalement en profondeur dans le monde pour une crise, voilà, pour une élimination de ce qui ne va pas et un ensemencement d'une nouvelle dimension, peut-être celle de l'ouverture à Dieu, non, je ne sais pas. Alors peut-être que...
Je crois qu'il est temps de conclure. Donc effectivement, là, on en arrive à la fin de ce périple. Bon, pour Paul, ça continuera, hein. Il va à Corinthe, et puis ensuite, vous savez que le périple se poursuivra ainsi de suite jusqu'à Rome. Pour nous, ben, l'an prochain, une nouvelle proposition qui sera faite donc par Marc et par Jérôme Prigent. Ben, pour ma part, ben, moi, je, à mon tour de te remercier, Marc, pour ces 3 années où on a bien bataillé sur plein de textes, et puis ben, je crois que ça valait vraiment la peine, et je suis surtout très content que ça continue. Donc très bonne continuation à vous tous, et puis à bientôt.
Et il y a un petit pot, il paraît.
Et il y a un petit pot, des beaucoup gloffes et du bon vin. Donc réjouissons-nous et retrouvons-nous dans la deuxième partie de la salle des colonnes. Bonne soirée.